Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Et le journal avec Mayol de Charon.
Et à la une, Donald Trump et Kamala Harris poursuivent leur déplacement à 2 jours de la présidentielle américaine. La candidate démocrate a fait un crochet surprise dans l'émission satirique Saturday Night Live, un programme parmi les plus célèbres de la télévision américaine. Le roi Felipe attendu dans le sud-est de l'Espagne après les inondations meurtrières dans le sud-est. Le dernier bilan fait état de 213 morts et de dizaines de disparus. La solidarité, elle, s'organise aussi hors des frontières espagnoles. Elle est la première femme noire à diriger un grand parti politique britannique au Royaume-Uni. Kémi Badenoch prend la tête du parti conservateur. Âgée de 44 ans, elle a été plusieurs fois ministre. Et puis en tennis, Hugo Humbert affronte cet après-midi le numéro 3 mondial Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Il est le premier Français à accéder à ce stade de la compétition depuis 10 ans. À 2 jours de la présidentielle américaine, Kamala Harris a fait une visite surprise à New York. La candidate démocrate qui, comme Donald Trump, enchaîne les meetings dans les États-clés, a fait une apparition dans le programme de divertissement satirique Saturday Night Live, l'une des émissions les plus célèbres de la télévision américaine. À Washington, la correspondance de Guillaume Nodin.
En venant lancer Saturday Night Live sur NBC, Kamala Harris participe à une véritable institution américaine. C'est la 50e saison de cette émission incontournable de l'humour et de la musique. Une apparition de 2 minutes face à Maya Rudolph, la comédienne qui l'incarne depuis qu'elle est candidate. Les deux femmes sont habillées de la même façon et se parlent à travers un miroir et la vice-présidente se lance dans quelques blagues.
Nice to see you.
Ravi de te voir, Kamala. Et je suis là pour te rappeler que tu vas réussir parce que tu peux faire quelque chose que ton adversaire ne peut pas faire. Tu peux ouvrir des portes.
Une allusion aux difficultés de Donald Trump à ouvrir la porte d'une benne à ordures quand il s'était habillé en éboueur après que Joe Biden avait assimilé ses soutiens à des ordures. Autre allusion, celle à son rire, souvent moqué par Donald Trump.
Je ne ris vraiment pas comme ça, si.
Un peu, répond la comédienne qui s'engage à voter pour Kamala Harris, laquelle conclut en lui demandant si par hasard elle n'est pas inscrite en Pennsylvanie, l'état le plus important de cette élection, où elle a prévu de passer la journée de lundi. John Nodin, Washington, RFI.
Malgré une nuit supplémentaire de négociations, la COP16 biodiversité en Colombie s'est terminée sur un échec. Aucun accord sur le financement d'un plan de protection de la nature n'a été trouvé. En cause, le nombre de personnes présentes pour voter, il n'était pas suffisant. Plusieurs délégations avaient en effet quitté la salle pour prendre leur avion du retour. En Espagne, le bilan des inondations dans la région de Valence ne cesse de s'alourdir. Au moins 213 personnes sont mortes. Des dizaines sont toujours portées disparues. 10 000 soldats et policiers supplémentaires ont été déployés pour aider les sinistrés. Sur place, la solidarité s'organise. C'est le cas aussi en France. Les casas régionales Valenciana, des centres dédiés à la promotion de la culture de la région de Valence dans le monde, se mobilisent pour récolter des fonds. Grégoire Motte.
Depuis quelques jours, un élan de solidarité trouve un écho international. Une cagnotte d'aide a été mise en ligne à l'initiative des centres de la région de Valence, situés à Bruxelles, Paris et Montpellier. Les priorités de l'aide avec Corinne Romero, présidente du centre de Montpellier.
Aujourd'hui, les besoins, c'est un déblayer et à pouvoir accéder. Moi, j'ai des membres de ma famille qui sont au 3e étage et qui sont toujours isolés. Puisque dans la rue, il y a toujours des décombres, des branches, des 50, 60, 70 mètres de boue et des tas de voitures.
Les centres du Chili ou de Londres sont également mobilisés. L'objectif est de prendre le relais du secours d'urgence avec une aide matérielle. Corinne Romero.
De l'aide matérielle, ce sera des lits, des matelas, beaucoup d'habits, de quoi meubler, de quoi dormir, de quoi pouvoir se faire à manger et de retrouver un semblant d'autonomie ou d'indépendance.
Du matériel qui devrait arriver dans la région de Valence d'ici le mois de décembre.
Et le roi Felipe et le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez sont attendus ce dimanche. Antonio Guterres se dit atterré par les récentes attaques commises par les paramilitaires des FSR dans le centre du Soudan. Le secrétaire général de l'ONU a condamné fermement ces actes qui se sont déroulés ces derniers jours dans l'état d'Al Jazeera. Stéphane Dujarric, le porte-parole d'Antonio Guterres, décrit une situation effroyable pour les civils.
Le secrétaire général a condamné extrêmement fermement les attaques. Nous avons vu
de la part des FSR dans l'état de Al Jazeera. Et tout ça intervient dans un contexte d'une escalade de la violence au Soudan. Et le prix payé par les civils est franchement intolérable. Nous sommes vraiment consternés par les informations que nous recevons, non seulement sur les civils tués, les détenus, les déplacés, mais des horribles actes de violence sexuelle contre les femmes, contre des filles, des pillages de maisons, des pillages de marchés, des incendies de fermes. Ce qui, il faut être clair, tous ces actes peuvent constituer non seulement des graves violations de droits humanitaires, mais aussi de droits de l'homme. Et il faut que ces auteurs des violations soient aussi tenus pour responsables dans l'avenir.
Et hier, ce sont au moins 12 personnes qui ont été tuées, cette fois au nord de la ville de Koutoum, dans l'ouest du Soudan, par des tirs d'artillerie des paramilitaires. Deux semaines après la victoire sur le fil du oui au référendum sur l'Union européenne, les Moldaves sont à nouveau appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Deux candidats s'opposent, la présidente sortante Maia Sandu, pro-Union européenne, qui a tourné le dos à Moscou après l'invasion de l'Ukraine. Elle fait face à Alexandre Stoyanoglou, ancien procureur soutenu par les socialistes pro-russes. Le parti conservateur britannique a une nouvelle chef avec près de 57% des suffrages. Kemi Badenoch, d'origine nigériane, s'est imposée face à son rival Robert Jenrick. C'est la première fois qu'une femme noire dirige l'un des principaux partis au Royaume-Uni. Sophie Loussoum, maître de conférence à l'université de Picardie.
Kemi Badenoch est la quatrième femme chef du parti conservateur, donc après Margaret Thatcher, Theresa May et Liz Truss. Mais c'est la première femme noire qui dirige le Parti conservateur. Elle a 44 ans, elle a été ministre du Commerce et ministre des Femmes et de l'Égalité des Chances de 2022 à 2024. Elle est ingénieure de formation et elle a travaillé dans le Conseil et les services financiers avant d'être élue députée en 2017. C'est une femme de conviction qui a soutenu le Brexit. Ses héros sont Churchill et Margaret Thatcher. Et c'est une femme authentique, mais qui est néanmoins controversée. Elle pense que la place de l'État est trop importante. Elle a mis pendant sa campagne l'accent sur les valeurs du Parti conservateur, la liberté, la famille, la responsabilité personnelle, le contrôle des frontières et la liberté des marchés. Dans son discours, elle a reconnu que le Parti conservateur avait fait des erreurs, mais devait maintenant dire la vérité, relancer ses politiques et donner un nouveau départ.
Et le Premier ministre travailliste Keir Starmer a salué sur le réseau social X un moment de fierté pour le Royaume-Uni. Et puis, ça n'était pas arrivé depuis 10 ans. Un Français en finale du Master 1000 de tennis de Paris-Bercy. Le Messin Hugo Humbert sera opposé cet après-midi au numéro 3 mondial, l'Allemand Alexander Zverev. Le virevoltant gaucher s'est qualifié hier en venant à bout du Russe Karen Khachanov pour s'offrir donc sa première finale dans un tournoi de cette catégorie, avec évidemment l'envie profonde de s'imposer devant le public français. Eric Mabout.
Hugo Humbert.
Avoir son nom au palmarès du tournoi de Paris-Bercy créé en 1986, Hugo Humbert en rêve depuis toujours.
Franchement, c'est mon tournoi préféré. Je suis tellement triste que ça soit la dernière édition. Il y a eu tellement d'histoires. Je me rappelle, voilà, petit, quand je suis venu voir la finale Nadal-Nalbandian, et ça m'a donné des étoiles dans les yeux. Je me suis dit, putain, si un jour je pourrais déjà jouer sur ce cours, ça serait incroyable. Et là, d'être en finale, d'avoir l'opportunité de faire quelque chose de grand, c'est juste incroyable. Je me suis offert ça et je suis vraiment fier. Ouais.
Auteur de la plus belle semaine de sa carrière, avec à la clé des victoires pleines de panache, Hugo Humbert n'est plus qu'à une marche de rejoindre ses trois compatriotes anciens lauréats, Guy Forget, Sébastien Grosjean et Joe Wilfried Tsonga, dernier en date en 2008. Pour cela, il devra terrasser le récent finaliste de Roland-Garros, l'Allemand Alexander Zverev. Un énorme défi à sa portée, selon le directeur du tournoi, Cédric Pioline.
Ça serait un exploit pour lui de gagner un premier Master 1000 en sortant Alcaraz en quart de finale, en sortant Khachanov, ancien vainqueur, et puis Zverev en finale. Il a tout ce qu'il faut quand on voit le niveau de jeu auquel il a évolué toute la semaine. Il a un niveau top 10. Ça serait magnifique pour lui, ça serait magnifique pour le tournoi d'avoir un quatrième vainqueur français pour la dernière édition ici à l'Accor Arena.
L'Arena de Bercy qui va s'enflammer une dernière fois ce dimanche avec l'espoir d'une fin en apothéose.
Hugo Humbert, Alexander Zverev, ce sera à partir de 14h temps universel, RFI 9h10 à Paris.